Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Pay the cost to be the boss. Pay the cost to be the boss. I pay the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo, qui vous prendra d'autant plus par la main que mon cher Théo est fatigué par la fête des mères.
Et oh. C'était il y a deux semaines, Gauthier.
Et vu qu'on enregistre les émissions 15 par 15,
ah, vous allez le dire maintenant.
Vous allez avoir jusqu'en octobre 2027 des émissions.
Oui, oui mais ma chère maman qui m'écoute, c'est pas vrai, je suis pas fatigué.
Puis chère maman de Théo, vous êtes la seule à nous écouter, donc voilà. Ça mérite bien une fête des mères.
Ça m'a rempli de joie. Alors Gauthier, revenons-en à nos moutons. Dans l'émission de ce jour, t'as décidé de te faire un petit plaisir en faisant fi des 50 ans de The Basement Tapes, l'album commun de Bob Dylan et de The Band dont on devait vous parler dans cette émission, dont on approche de plus en plus punk de notre émission à la limite du YOLO. Tu as décidé de joindre la parole à l'acte cette fois et de nous parler d'un des plus grands groupes de rock qui a révélé l'une des plus grandes figures de la musique des 50 dernières années. Durant les 26 minutes qui viennent, nous allons donc réparer une erreur, puisque nous n'avons pas abordé l'histoire de ce groupe, que de manière très sporadique, alors qu'ils auraient presque mérité une saga. Je lève tout de suite le voile sur ce mystérieux groupe, c'est bien entendu des Stooges dont il avait été question dans cette émission. De leur formation à leur fin prématurée au bout de 3 albums, ce qui explique qu'en faire une saga aurait été compliqué, en évacuant de façon très arbitraire les 2 albums sortis en 2007 et en 2013 parce qu'ils n'ont un intérêt que tout relatif, à la fin de cette émission vous saurez tout ou presque sur ce groupe mythique. Et comment débuter l'émission autrement qu'en écoutant l'un des morceaux les plus emblématiques des Stooges, I Wanna Be Your Dog. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Vous l'entendez, l'émission de ce jour est consacrée aux Stooges. Et mon cher Gauthier, tu vas nous expliquer les raisons de ce choix.
Tu l'as dit mon cher Théo, on devait parler d'un album de Bob Dylan avec The Band, l'un de mes groupes, un groupe que j'aime beaucoup. Et puis je me suis rendu compte qu'au cours de Thérapie Pop, on avait préparé des trucs sur Bowie, les Stones, les Beatles, les Smiths, Radiohead, Pixies, Pavement, Oasis, même récemment encore. J'en passe et des meilleurs, que j'avais passé quand même pas mal de groupes.
Oasis x2
Ouais, mais on s'est rattrapé, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un groupe dont j'avais pas parlé. Au moment de me faire un dernier gros kiff de l'année, voire plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un groupe dont je n'avais jamais parlé, qui a pourtant une importance absolument capitale pour moi, et je pense comme beaucoup, pour beaucoup de gens qui aiment la musique rock. Et à savoir, comme tu l'as dit très justement, mon cher Théo, les Stooges, un mec avec une voix viscérale, des guitares efficaces. Et comme tu l'as dit, on peut pas faire une saga dessus. Il y a que trois albums qui méritent d'être chroniqués. Donc c'est parti pour une valse à trois temps, mon cher Théo, puisqu'on parlera des trois albums dans cette courte émission. On pourra pas rentrer dans le détail. Mon seul objectif, c'est de montrer comment ces mecs qui passent pour de joyeux branleurs ont en trois albums fait trois mini révolutions.
Ouais.
Ok. Ce qui est pas triste. Est-ce qu'il rejoint notre cher David Bowie?
Mais on va y arriver peut-être à un moment. Et puisque nous sommes un peu pris par le temps, tu l'as dit Gauthier, on va essayer de concentrer le maximum donc, d'informations durant ces trois temps qui seront consacrés, tu l'as dit également, aux trois albums mythiques des Stooges. Mais puisqu'on est punk, mais un petit peu conservateur, on va les dérouler dans le temps. Et donc, tout commence en 1969, Gauthier.
Ça commence en 1969. Alors en plus, les Stooges ont l'amabilité de dater chacune de leurs chansons, puisque t'as 1969 sur l'album de 1969, t'as 1970 sur l'album qui est 70, parce qu'ils sont originaux quand ils vont chercher des titres de chansons. Et tout commence donc en 69, quand quatre tocards d'Ann Arbor, pas loin de Détroit, dans le Michigan, à savoir Iggy Pop, né James Newells Osterberg, et qui ne s'appelle Iggy, pour le savoir, à cause de son premier groupe qui s'appelait les Iguanas. Et donc on lui a dit bon vas-y tu resteras un Iggy. Ron Ashton, Scott Ashton et Dave Alexander vont sortir leur premier album qui, et je vais le répéter inlassablement pendant cette émission, est déjà dès le début une première révolution.
Et tu vas nous apprendre qu'à la base la musique que voulaient faire les Stooges était loin de ce dont ils ont accouché au final, hein.
Ouais, parce que vous l'avez entendu dès le premier album, puisqu'à Wanna Be Your Dog est la deuxième chanson je crois du premier album dans mon souvenir, ça crache,
oui,
quand même
ça fait,
pas mal, mais pourtant l'idée de départ c'était de faire une sorte de blues. Alors certes du blues qui va taper, on est à Détroit, Chicago qui est pas loin est une grande école du blues, du Mississippi blues, même si Chicago n'a rien à voir avec le Mississippi, mais quand même, ils se sont exportés là-bas. Je crois que c'est Buddy Holly qui était notamment à Chicago. Passons, Little Richard était à Chicago. On est à Détroit, la vie est à chier, c'est industriel, etc. Donc ce qui devait être du blues va assez rapidement déraper. Et pourtant, quand vous écoutez les Stooges, sur pas mal de chansons, vous pouvez réentendre des structures de blues. Et je vais vous en donner une très rapide, extrait du troisième album. C'est la chanson I Need Somebody. Écoutez le début, on se croirait presque dans les années 20 avec un petit blues. Bon, je vous la laisse en fond, mais déjà le premier riff de guitare un peu balancé comme ça.
C'est du blues, c'est du blues un petit peu vitaminé et un petit peu, si on la déroule jusqu'au bout, passer à la machine qui broie du noir. Mais.
Alors, ce qui est typiquement blues, c'est ça. C'est cette descente de guitare. Ça, c'est un accord typiquement blues. Enfin, c'est une descente typiquement
blues.
Mais
l'intro.
Oui, il est aussi. Mais le nanananananan, ça, c'est du blues.
Et ils ont d'autres inspirations plus proches d'eux que les papes du blues, hein, en tout cas, Gauthier.
Oui, il y a un premier groupe très précurseur de l'histoire musicale, et notamment de la scène de Détroit, dont on parle très peu, c'est le MC5, parce que leurs albums sont assez douteux. Ce ne sont pas extraordinaires, mais qui vont les influencer. Et un autre groupe, les Doors, parce que oui, les Stooges ont pensé à un moment faire de la musique comme les Doors. Ça s'entend d'ailleurs sur le premier album avec la trémole Anne, qui est une espèce de trip un peu psychédélique, et l'insoutenable We Will Fall de 11 minutes, je crois, qui est une chanson épouvantable.
10 minutes.
De 10 minutes, ouais. C'est déjà trop long.
Comparable d'ailleurs aux Yen de The Doors.
Un peu, mais en raté.
Et le thème semble d'ailleurs s'en rapprocher.
Oui, avec
voilà,
We Will Fall, ouais.
Mais ils ont pêché dans la finition.
Et même la pochette du premier album est en fait un repompage énorme du premier album des Doors.
Ouais. L'album est là, toutefois, Gauthier, il a au moins le mérite d'exister et de poser deux ou trois tubes tels que No Fun ou I Wanna Be Your Dog. Il est également annonciateur d'un mouvement qui deviendra mythique.
Ouais, c'est un album qui est en dents de scie, indubitablement. C'est-à-dire qu'on l'a dit, tu l'as, I Wanna Be Your Dog, No Fun, qu'on va écouter tout à l'heure, c'est des chansons absolument géniales. Il y a des vrais trous d'air. Mais comme tu le dis très justement, mon cher Théo, le principal n'est pas là. Ils viennent de poser, dès cet album, avec 10 ans d'avance sur tout le monde, ben en fait, les bases de ce que va devenir le punk. On parle souvent d'ailleurs des Stooges comme un groupe de proto-punk, c'est-à-dire avant les punks. Les riffs sont simples, court, le son est dégueu, saturé, les paroles nihilistes, tout est là. Les Sex Pistols, d'ailleurs, reprendront plus tard No Fun comme une espèce d'hommage à leurs Stooges précédents. Je rappelle que, alors 10 ans d'écart, non, mais les premiers punks vont arriver 7 ans près, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est énorme.
C'est ça.
Sur l'échelle de la musique, c'est énorme.
Mais avec ce son si particulier, ils vont pas qu'inspirer les punks des États-Unis ou d'Angleterre. Ils vont également être à l'origine d'un autre mouvement qui est né dans la perfide Albion.
Absolument. Quand tu as les guitares de Ron Ashton qui sont froides, mécaniques, ça va influencer la Cold Wave. Beaucoup de groupes de la Cold Wave se diront inspirés en grande partie par le son, bien évidemment pas par la structure musicale, mais au moins par la sonorité des Stooges. Et ça va plus loin puisque dans les années 90, le grunge lui rendra hommage. Je crois que Kurt Cobain place deux albums des Stooges dans son top 5 de meilleurs albums de tous les temps. Et les années 2000, avec ce qu'on appellera un peu le rock revival, c'est-à-dire ce son un peu crado, rock blues justement, que ce soit les Black Keys ou les West Traps par exemple, rendront hommage aussi au monument qui étaient les Stooges. Je crois que là aussi Jack White considère, on en parlera après, mais que le deuxième album des Stooges est le plus grand album de tous les temps. Et
je pense à Kurt Cobain qui place deux albums dans son top 5. Ils en ont fait trois quand même, que les Stooges à l'époque.
Il n'y a que Raw Power et Raw Power, je ne sais pas s'il n'y est pas.
Et ce disque, donc je reviens à ce disque éponyme qui s'appelle The Stooges, à la fois blues, psyché, rock, punk et j'en passe, il va sortir un son qui est difficilement qualifiable. Gauthier, comment est-ce que tu pourrais le décrire?
Ouais, c'est un peu le bordel. Le premier album, c'est révolutionnaire, mais ça reste le bordel, c'est inimitable, c'est sale, c'est dégoulinant, c'est violent, c'est bruyant. Ça ressemble à une sorte de fantasme d'un biker qui serait perdu dans une partouze de hippies, mais eux-mêmes SDF. Enfin, c'est un peu étrange. C'est surtout aussi un énorme doigt d'honneur au rock des années 60, de la fin des années 60, puisque je rappelle qu'à l'époque, les Beatles, David Bowie, Led Zeppelin, etc., commencent à plonger dans un rock très orchestral, très ronflant, des super groupes et tout. Et eux leur disent non, on s'en bat les reins. Le rock, c'est de la rage, c'est de la violence. On vous pond cet album.
Ouais. Et t'as une citation tout aussi imagée pour qualifier le premier album d'Iggy et de ses copains.
Ouais, je sais pas du tout, je l'ai trouvé, mais je vous la sors telle quelle. Et je remercie la personne qui l'a pensé. C'est un acte de sabotage culturel, une bombe posée au cœur du rock de son temps. J'adore, tout est là, effectivement. Et comme toute bombe, ça fait des dégâts. C'est pas très, 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 très parfait, on va dire. Hein. Ça frappe où ça peut. Tout n'est pas absolument indispensable dans leur premier album, mais l'essentiel est là. C'est déjà une révolution.
On va se marquer une pause, Gauthier. On s'écoute No Fun.
Another day. No fun for my babe. No fun. No fun for my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by my.
No fun. On se la laisse en fond.
Mais bien sûr.
Et donc Gauthier, on reste sur ce premier album. Donc on est en train de s'écouter No Fun qui était la piste
5, je crois, ou 6.
Moi aussi j'ai un doute entre la 5 et la 6. Bref, si le premier album avait été démoli par la presse spécialisée à l'époque, je cite ton magazine préféré, Rolling Stone, les Stooges sont une bande de paresseux défoncés pratiquant une musique ennuyeuse et régressive destinée à des gens ennuyeux et régressifs.
C'est des cons jusqu'au bout. Hein. Ils ont jamais rien compris à la musique. C'est fou. Ils se plantent sur toutes les chroniques. Ils comprennent aucun mouvement musical.
Ils sont confondants. Cela dit, ils se sont repris par la suite parce qu'il fait partie des plus grands albums.
Oui, 30 ans après. Voilà. Non, mais c'est les Rolling Stones. Voilà. Rolling Stones. Ils sont toujours, ils se plantent quand ça sort. Et puis,
Les Stooges n'en restent pas là. Et tant mieux. Parle-nous du deuxième album, Gauthier, Fun House, qui est sorti un an après, en 70. Donc.
C'est très simple, mon cher Théo. 1969, c'est un premier album discutable mais révolutionnaire. C'est discutable. Pas de soucis, mon gars, place au chef-d'œuvre, c'est Funhouse. Probablement, selon Jack White, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, le plus grand album de rock de tous les temps. Et je parle bien de rock, les gars, pas de pop. Hein. Alors, ils arrivent en studio, les mecs maîtrisent un peu mieux leur composition. La différence de cet album avec le premier, c'est qu'il y a absolument zéro déchet. Vous pouvez garder absolument toutes les chansons, à part qu'on va lâcher les chevaux. Et ça, vous l'entendez dès les premières notes de la chanson Down on the Street.
Ah, ouais, donc t'as un exemple pour illustrer ce lâcher de chevaux. Le morceau d'ouverture.
Le morceau, parce que j'ai pas écouté plus loin. Non, je l'ai pas. Non. Alors, en fait,
il dit quoi ?
Quand tu mets pop, c'est bizarre comme nom. Hein. Quand tu écoutes Down on the Street, dès les premières notes, tu comprends que rien n'a changé. C'est-à-dire que la batterie martiale, les riffs de guitare sont plaqués avec une subtilité de bûcheron. C'est répété inlassablement. Parce que pourquoi mettre 8 notes quand tu peux en mettre que 4, voire 2 hein. Voilà. Et la deuxième minute de la chanson arrive. Et là, le grand n'importe quoi de ce que va être Funhouse et de ce que n'était pas leur premier album à part. Il y a deux solos de guitare joués en même temps, bien évidemment, avec pas la même partition, sinon c'est pas drôle, hein, qui sont ponctués de jactations, il n'y a pas d'autre mot, de ce bon vieux Iggy qui surgit de la mélodie, et tu comprends que le statement, entre guillemets, du deuxième album va être assez différent du premier.
Et cet album est toutefois toujours animé par la même émotion que le précédent, c'est-à-dire une violence sans nom, mais il faut toutefois nuancer cette approche, ce que fera très bien l'immense Lester Bangs, le patron des critiques musicaux.
Oui.
Je cite, « Pas toujours immédiatement accessible, il exige de prendre, donc on parle de Funhouse, il exige de prendre le temps de la découverte, mais sera payé en retour. Car cet album est bien écrit, il offre non du bruit, mais de la musique faite de textures, peut-être un petit peu plus rude et plus engagée que d'habitude. » Obscur à la première écoute, il vous promet la découverte jour après jour de paysages sonores dont jamais vous n'auriez rêvé. Est-ce que tu as la même vision que Lester ?
Je suis assez d'accord avec lui. C'est un album qui pue la drogue, l'alcool, le sexe sur une banquette arrière en cuir, l'orgasme convulsif et incontrôlé. Et si tu me crois pas dans cette espèce de représentation d'un délire érotico-agressif, je vais te donner 10 secondes, mon cher. 10 secondes du début de la chanson TVI avec un hurlement qui est... Ouais, une sorte d'orgasme entre Eros et violence. C'est TVI, c'est les 10 premières secondes de TVI. Écoutez, tendez l'oreille, c'est somptueux, c'est Iggy Pop au micro.
Là
voilà mon cher Théo.
Entre Eros et Thanatos. Vraiment, c'est waouh.
Il y a beaucoup de Thanatos, mais il y a beaucoup d'Eros aussi.
Et si tu devais retenir un morceau de cet album Gauthier qui n'en compte que 7, soit dit en passant, ce serait lequel ?
Il n'y a pas le temps, de toute façon. On est en train de préparer le punk, mec. On va pas faire un album d'une heure et demie. Et
ouais.
Effectivement, il y a une pièce maîtresse. Mm-hmm. Une chanson qui est pour moi l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique. C'est une descente ultime dans les instincts primaires. Un manifeste comme la musique en a très rarement proposé. Je rejoins totalement Lester Bangs. Il dit que c'est un son rarissime. C'est un riff de guitare à la hache, une batterie aux sonorités d'usine de Détroit, un chant de bête possédé, des solos qui surgissent de la mélodie comme tout droit sorti d'une bacchanale, un saxophone lâché comme un chien fou au milieu de cette guerre sonore parce que les mecs se livrent une guerre en arrière-plan, et sur la fin, un cri en forme d'orgasme rageux. C'est mythique, c'est inoubliable, c'est quasiment gênant et corrosif parce que Lester Bangs a aussi raison, mais ça ne ménage pas. C'est la chanson 1970. Je ne peux vous en mettre qu'un extrait. Vous n'arriverez pas jusqu'à la fin, au moment où la bacchanale se déclenche. Mais foncez écouter cette chanson, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Bye.
C'est avec un profond regret que je te laisse pas jusqu'au bout, Théo, mais allez
peut-être
l'écouter.
On va se laisser dérouler, on va voir où ça nous mène. Avant de passer sur le dernier album important des Stooges, Gauthier, je reviens très rapidement sur Funhaus, parce qu'on dit les Stooges précurseurs du punk. Or, il n'y a pas un morceau de moins de 3 minutes 30 et même deux titres de plus de 7 minutes.
Ouais.
On est très loin de ce qu'on imagine des morceaux punk qui sont plutôt courts normalement. Ça continuera sur le suivant qu'on va aborder dans quelques instants, Raw Power. Mais tiens Gauthier, comment est-ce que justement les Stooges ont eux abordé ce troisième album?
Mal. Non mais c'est vrai que comment passer d'un des cinq plus grands albums de l'histoire du rock, et je parle bien de rock pur, et comment tu fais surtout avec un groupe qui est camé au dernier degré à l'époque, Iggy Pop tourne à l'héroïne, etc. La formation que le groupe a complètement explosé. Je cite Iggy Pop en 1970, c'est la fin de mon traitement prolongé méthadone, golf, valium, une première du genre. Et oui, effectivement, je déconseille, je pense, d'utiliser un
petit peu. Parce que c'est le golf. Le...
Je crois que c'est un étrange. Je crois que Donald Trump en fait. Ouais. Comment faire aussi quand ton label t'a claqué la porte, et non seulement il t'a claqué la porte à la gueule, mais il te réclame en plus 80 000 $, et je te prie de croire qu'à l'époque le groupe ne les a pas.
Ouais. Je te crois sur parole.
Et ben, ils te font un ange gardien qui va leur tomber sur le coin de la gueule.
Et comment il s'appelle cet ange gardien dont on parlait tout à l'heure?
Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, il s'appelle David Bowie. Alors, qui va être au mixage de Raw Power, c'est lui qui va les emmener entre guillemets à Londres et qui acceptera de produire entre guillemets leur album numéro 3. Il massacrera le mix final d'ailleurs, qui donnera lieu à des décennies de disputes derrière. Et vous pouvez trouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming à la fois la version initiale de Raw Power et la version remasterisée entre guillemets par Iggy Pop récemment, il y a moins d'une dizaine d'années. On prend tout le monde, on part à Londres, on enregistre en 4 nuits parce qu'il ne faut pas déconner, on n'a pas le temps. Et ben voilà, c'est
ça,
déjà pas mal.
Ça, c'est punk.
Non, ça, ouais, ça, c'est déjà pas mal.
Tu te fais massacrer par Bowie un album enregistré en 4 nuits, ça, c'est du nouveau futur.
Si c'est pas punk complètement, le son est punk par exemple sur Funhaus, mais pourquoi ça dure 7 minutes? Parce qu'il y a du free jazz. C'est incroyable comme truc. Il y a un saxo, là, vous allez l'entendre en fond, mais qui vient péter un boulon, c'est. On est au-delà du punk et bien plus intelligent que le punk, bien évidemment.
Et je sais que tu pourras en parler pendant des heures, Gauthier, mais j'ai peur qu'il ne te reste que quelques minutes. Lâche-toi, vas-y.
Eh bien, écoute, mon cher Théo, c'est très simple. Cet album, donc, qui sera pondu en 4 nuits, va poser les bases d'un autre mouvement musical, à savoir le hard rock, avec notamment les riffs de Penetration, une chanson que je vous laisse aller écouter, qui est là aussi un chef-d'œuvre absolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le guitariste va changer de nom.
C'est Television, non? Penetration?
Non, Penetration, c'est Stooges, c'est Raw Power.
Ah, pardon.
Sûr.
Mais à culpa.
Et en fait, c'est James Williamson qui va prendre la guitare avec une approche, on va dire, plus riff plaqué. Alors, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais il va commencer à sortir des gros riffs barrés, et ça posera les bases de ce que sera notamment le hard rock. Le groupe, lui, sera quasi SDF à la sortie de son enregistrement. Les types auront plus un radis. Enfin bon, voilà. Mais en fait, ça, c'est l'histoire des Stooges. Hein. C'est compliqué. Un vrai groupe rock aussi dans l'âme.
C'était Elevation, pardon.
Elevation.
Television. Chers amis, cette émission touche à sa fin. Une petite citation, Gauthier, auparavant.
Mais de ChatGPT, mec.
Ah ouais.
Quand tu demandes à ChatGPT de te parler de Raw Power, il en parle et il en parle très bien. Raw Power est un disque maudit, dangereux, irréductible. Il ne cherche pas à plaire, il ne demande pas l'amour, il exige la soumission ou la fuite. C'est le cri terminal d'un groupe au bord du gouffre. Un album, si on avance sur son temps, qu'il en est devenu hors du temps. C'est quasiment applicable.
Si même les machines le disent, Gauthier.
Ouais, et c'est quasiment applicable aux trois albums des Stooges.
On se quitte avec l'un des titres phares donc, de ce dernier album, Raw Power, c'est Gimme Danger. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre saga Bowie. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
Salut.
Stranger, and I'll feel you up in me. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. Hey! Now if you will be my lover, I will shoot the red sand. But if you can be my master, I will do anything. There's nothing left alive. but a pair of glasses.